Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alors, la première lecture, ça sera dans Jean. Nous nous mettons à table et nous allons manger. Nous allons nous régaler ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, des fois on la lit, mais on ne comprend pas toujours ce que nous lisons. Et si vous ne la comprenez pas, si vous ne comprenez pas aujourd'hui, continuez à méditer, continuez à lire la parole de Dieu, parce que tôt ou tard, Dieu va ouvrir votre esprit pour vous aider à comprendre ce que vous n'avez pas compris il y a une semaine, il y a un mois. Et quand vous repassez après, eh bien vous avez des meilleures dispositions et Dieu, d'un coup, le Saint-Esprit fait comme un flash dans votre esprit et vous dites, mais c'est bizarre, je l'ai lu plusieurs fois, je n'avais pas compris. Et d'un coup, Seigneur ouvre notre intelligence et nous donne de comprendre sa parole. Et ça, c'est précieux. C'est très précieux. Et quand je vis ces choses, eh ben, vous ne pouvez pas imaginer, je note tout de suite. Je prends un papier, je note et je le garde devant moi pendant un moment. Et je le repasse parce que c'est une nourriture qui ne se détruit pas. Ça demeure la parole de Dieu. Et quand on la repasse dans notre cœur, elle nous fait du bien. Alors, vous connaissez tous l'histoire de cette femme samaritaine. Vous l'avez lue, nous l'avons partagée ensemble lors des évangélisations. Mais là, ce matin, nous allons, avec la grâce de Dieu, nous arrêter un petit peu sur quelque chose qui est frappant quand on le lit. Quand on s'y arrête, c'est quelque chose qui nous frappe. Alors, Jean chapitre 4, et à partir du verset, j'ai noté, à partir du verset 20. Et en passant, cette femme samaritaine, elle fut la première personne à qui Jésus parlera de quoi ? De l'adoration. La femme samaritaine, Jésus n'a pas parlé de l'adoration ni à Nicodème, ni aux disciples. Elle fut la première à qui Jésus parla de l'adoration. Alors nous allons voir un petit peu qu'est-ce que Jésus lui explique à cette femme. À partir du verset 20, la femme qui répond à Jésus suite à l'entretien qu'elle a eu avec lui, et la Bible nous dit que Jésus, fatigué du voyage, Dieu a conduit Jésus à se mettre assis sur la margelle du puits de Jacob. Et cette femme, Jésus s'entretient avec cette femme. Jésus lui dit de lui donner à boire. Mais on ne va pas aller dans ce dialogue qu'il y a eu entre Jésus et cette femme. Nous allons prendre la deuxième partie, au verset 20. Il dit, cette femme répond, elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Samaritains, samaritaines et juifs, ils avaient des principes différents. Et cette femme fait savoir à Jésus en lui disant, « Vous les juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » À Jérusalem, vous savez qu'il y avait le temple où chaque année, Jésus, sa maman, son beau-père Joseph partaient à Jérusalem pour la fête. Et là, cette femme dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Au verset 21, Jésus reprend la main et dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, il y a une heure qui vient, où ce ne sera ni sur cette montagne dont tu me parles, ni à Jérusalem, le temple, ce lieu que vous adorerez le Père. » Jésus tout de suite ramène les choses, va élever le niveau pour expliquer à cette femme Ce n'est pas le lieu ni l'endroit qui compte. Avant de venir adorer Dieu ce matin ici, vous avez adoré Dieu en vous levant ce matin, oui ou non? Vous l'avez fait, vous l'avez remercié, et je crois et j'espère que vous l'avez adoré. Dieu et Jésus. Et Jésus dit à cette femme, vous êtes habitués à le faire ça, à aller dans un lieu, à aller sur cette montagne, ou même à aller dans un lieu, le temple de Jérusalem. Jésus dit non. Regardez la suite. Jésus est en train, à travers ce dialogue avec cette femme, et vous verrez que cette femme, Jésus l'a emmenée, Jésus s'est révélé à elle pour qu'elle puisse passer par le salut, par la grâce. Ça veut dire que aucun homme, quel qu'il soit, religieux ou pas, ne peut pas adorer Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Notez bien cela. Autrefois, nous étions esclaves. Nous observons des rites. Il fallait faire ceci, cela pour pouvoir adorer Dieu. On avait des principes, on nous avait inculqué des principes. Mais ça, c'était par la religion. Mais Jésus, à travers ce dialogue, cette rencontre avec cette femme, il emmène les choses à une hauteur pour expliquer non seulement à cette femme, mais à nous qui sommes là, qui l'avons rencontré un jour dans notre vie et qui l'avons reçu dans notre cœur. Il nous dit maintenant c'est fini. Ce n'est plus à un endroit. Ce n'est plus dans un temple. Certains disent, je vais au temple, je vais à l'église. Oui, là ce matin, nous formons le corps de Christ. Là, nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons connu ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous sommes passés par la croix. Nous avons reçu Jésus comme sauveur. Nous sommes nés de nouveau. Et c'est dans cette nouvelle créature que nous pouvons véritablement offrir un culte qui lui soit agréable à Dieu. Sinon, cela est impossible, mes bien-aimés. Les choses anciennes, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous avait inculqué, la religion, les traditions, ça c'était autrefois. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, on ne peut rendre un culte à Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Combien de fois nous nous sommes réunis? Et le culte que nous avons rendu à Dieu, cela ne lui a pas été agréable. Pourquoi? Parce que nous avons oublié de mettre de côté ce qui était humain. Ce n'est pas par nos propres volontés, ce n'est pas par un joli chant, ce n'est pas par de l'émotion qu'on peut rendre un culte à Dieu. Le culte qu'on peut lui rendre, c'est en étant devant lui, en nous prosternant devant lui, et en lui demandant pardon pour nos péchés, en lui demandant de nous laver le cœur, de nous laver les mains, pour que nous puissions nous approcher et lever des mains pures vers lui. Un cœur pur. Et en étant ici comme nous ce matin, nous ne laissons rien venir occuper nos pensées. Bien que nous sommes fermés dans cette salle, mais Dieu veut que nous fermons la porte de nos pensées et que nous restons dans sa sainte présence. Parce que c'est un moment uniquement dévoué à lui seul. Et c'est ça notre combat. C'est tout en étant ici, veiller à ce que nos pensées soient, se convergent vers lui, vers Jésus. Rappelez-vous devant le trône, il y avait les 24 vieillards. Et il y avait aussi une foule qui était devant de toute langue, de toute race. Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les 24 vieillards? Eh bien, ils adoraient Dieu et ils adoraient l'agneau. Ils n'étaient pas occupés à autre chose qu'adorer et qu'à louer, adorer l'agneau, adorer Dieu. Et c'est pour cela que des fois, il suffit de très peu de choses. Il suffit d'un sommeil. Il suffit d'une pensée, il suffit qu'une mouche vienne là. Quand je dis une mouche, je caricature bien sûr. Une mauvaise pensée, une inquiétude, une préoccupation qui vient et qui tourne autour de nos pensées et qui vient se poser là dans notre tête et qui nous distrait pendant le temps que nous devons dévouer à Dieu pour le culte que nous devons lui rendre.
Mais bien aimé, ne laissez rien, je vous le dis. Quand je viens ici, j'essaye, je fais en sorte que rien ne puisse venir me troubler. Parce que c'est un moment que je dédie à mon Dieu et à mon Sauveur Jésus-Christ. Rien ne doit vous troubler. Rien d'autre ne doit préoccuper vos pensées. Une fois que vous avez fait cela, quand vous sortez, à nouveau, même si le téléphone, même si en sortant vous regardez, il y a un message urgent, mais parce que vous avez fait passer Dieu et Jésus avant, Dieu dit, parce que tu m'as fait passer, je m'occupe de cela. Gloire à Dieu. Alors, je reviens à cette femme. Jésus lui dit, lui fait savoir à cette femme que ce n'est plus dans un lieu, ni à un endroit. Jésus lui dit, au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Cette femme, les Samaritains, ne connaissaient pas véritablement les choses de Dieu. Bien qu'ils étaient là, faisant partie du peuple de Dieu, mais ils ne connaissaient pas. Ils avaient un manque de connaissance. Et ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous a fait connaître les choses. La Bible nous dit que par lui, Hébreux 12, verset 15, je crois bien, il nous dit par lui, offrons, par qui? Par Jésus, bien sûr. Voilà ce que Dieu nous a révélé. Il nous a révélé Jésus-Christ, son Fils. Et Dieu nous dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen. Et je crois que j'ai noté cela, c'est dans Hébreux 10. Je vais vous le donner tout de suite pour que vous puissiez le noter, s'il vous plaît. C'est Hébreux 13, pour être précis, au verset 15, pour ceux qui prennent des notes. Est-ce que vous vous souvenez, mes bien-aimés, de Caïn et Abel? Vous vous souvenez d'eux? C'était deux frères. C'était les enfants d'Adam et Ève. Et quand ces enfants-là ont grandi, chacun a choisi son métier. Il y en a un qui était berger et il s'appelait Abel. Et l'autre qui s'appelait Caïn s'est orienté vers l'agriculture. C'est-à-dire, il travaillait la terre et il plantait, il semait et la terre produisait du fruit, des légumes, etc. Abel était berger, il s'occupait des troupeaux, des moutons, des brebis. Et à un moment donné, ils ont eu à cœur, l'un et l'autre, d'offrir à Dieu quelque chose. Les deux frères étaient animés d'un bon désir. Mais quand Dieu regarda les deux offrandes que ces deux garçons lui ont offert, Dieu s'est arrêté plus sur l'offrande d'Abel. Pour quelle raison? On voyait derrière ça que Abel, en faisant ce qu'il a fait, il montrait par là que le sang avait de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez? Abel, en offrant une brebis à Dieu, c'est-à-dire en l'offrant, il a fallu qu'il égorge, il a fallu que le sang coule, il a fallu que la bête meure, et cela nous montrait par là, en toile de fond, la venue de Jésus. Le moyen que Dieu donnait à toute l'humanité pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous puissions, en passant par Jésus, que Dieu agrée ce qu'on lui offre. On ne peut pas, en dehors de Jésus, offrir quelque chose, même si c'est même si c'est beau, même si les gens disent « mais c'est bien, c'est merveilleux », Dieu ne prend pas plaisir si cela ne passe pas par Jésus. Ou si la personne qui le fait ne le fait pas à travers Jésus. Et pour pouvoir le faire à travers Jésus, il faut le rencontrer. Et cette femme samaritaine, Jésus va lui dire des choses, Dieu va se révéler à cette femme. Qui veut dire que sans la révélation du Fils de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, même si c'est bien, même si les gens disent c'est bien, ça ne servira à rien devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Abel a offert premier-né de son troupeau. Caïn arrive, il amène un magnifique panier avec des fruits. Vous savez que aujourd'hui les fruits sont, on dit, il y a bio, il y a des pesticides, il y a tout dans les légumes et dans les fruits. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu avant de manger. Mais Caïn a offert à Dieu un magnifique panier avec des légumes, des fruits de son labeur, de son travail. Dieu a dit ça, j'en veux pas. Il n'y a pas de sang qui coule, c'est des légumes qui vient de la terre que j'ai maudite. Rien de ce qui vient d'une terre maudite ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire que tout ce qui peut venir d'un cœur qui n'est pas régénéré, dont le péché y demeure, Dieu n'agrée pas. Pour ça qu'il est important de passer par Jésus, de venir sous l'aspersion du sang de l'agneau et de dire « Seigneur, tout enfant de Dieu que je suis, lave-moi et purifie-moi. » Parce que si je vis dans le péché, le culte que je viens rendre à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir. Il faut passer par, comme je dirais, la douche divine, le sang de Jésus, accepter d'être lavé, purifié, et pour être agréé de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il a vu le panier de fruits magnifique, des magnifiques fruits, Dieu ne s'est pas laissé séduire par ça. Dieu n'a pas dit, oh Caïn, oh c'est merveilleux, oh les bananes, les fruits, les pommes, toutes ces choses-là, ah, oui, c'est bon. Dieu n'a pas pris plaisir à ça. Mais Dieu, quand il a vu le sang de l'agneau, de la brebis qu'Abel lui a offert, Dieu a dit d'accord. Abel était en train de faire quelque chose qui montrait en toile de fond dans le futur le moyen que Dieu donnait à toute l'humanité afin qu'il soit sauvé, que les hommes soient sauvés au moyen du sang de Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit « Christ est mort, mais Christ est ressuscité et Christ est glorifié. » Nul ne peut s'approcher de Dieu sans passer par Jésus. Et nul ne peut venir vers Jésus si ce n'est pas Dieu qui attire cet homme ou cette femme vers Jésus. Vous savez que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui le crée en nous. Pour que nous puissions lui donner, c'est lui. Mais il faut encore que nous nous exposons, que nous nous ouvrons à lui pour que lui puisse nous remplir. Je poursuis la lecture. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. C'est vrai, les Juifs connaissaient le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Antillais, ni des Russes, ni des Gitans, ni des Chinois. Le salut vient des Juifs. Et quand on réalise, quand on comprend ça, on devient un peu plus humble. On ne se prend pas pour le nombril de l'univers. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple juif restera toujours le peuple juif et le peuple de Dieu. C'était normalement eux qui devaient évangéliser toute la terre. Mais comme eux, ils ont fermé leur cœur. Et Dieu était derrière tout cela. Pourquoi Dieu a fait cela?
La Bible nous dit, Dieu ne les a pas rejetés pour toujours. Dieu les a simplement, Dieu a retranché pour un temps. Et il nous a pris, nous, et il nous a greffés. Et nous profitons aujourd'hui de la sève, des racines, de ce que normalement les Juifs devaient en profiter. Mais Dieu fait cela pour susciter leur jalousie. C'est-à-dire nous, chrétiens, aujourd'hui, quand un Juif nous voit, il doit avoir dans le cœur un désir de connaître le Seigneur Jésus, Yeshua. Il doit aussi avoir envie de découvrir qui est Jésus-Christ. Nous devons leur donner cette envie, ce désir de le connaître. Si nous ne le faisons pas, c'est que quelque part, nous nous sommes un peu habitués, on s'est confortés, on dit oh, « je connais Jésus, ça me suffit ». Non, non, non. On doit être la lumière du monde et le sel de la terre, que ce soit pour les Juifs. Parce que bientôt, la porte de la grâce va se fermer et Dieu va se tourner vers Israël, son peuple. Le salut vient des Juifs. Jésus n'était pas africain, ni antillais, ni gitan, ni chinois. Jésus était un Juif. Amen. Je poursuis. Mais l'heure vient, voilà cette heure. Jésus disait à cette femme, au verset 21, l'heure vient. Et Jésus lui redit à nouveau, verset 23, il lui dit, l'heure vient. Et Jésus rajoute, et elle est déjà venue, cette heure. Et Jésus voulait dire par là, moi qui te parle, je suis de cette nouvelle façon d'adorer. Je suis porteur de cette heure-là. C'est ce que Jésus voulait lui dire par là. Il lui dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Pourquoi Jésus lui dit les vrais adorateurs? Parce qu'il y a des faux adorateurs. Alors les vrais adorateurs, c'est qui? C'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est nous ce matin. Et c'est pour cela qu'avant, qu'est-ce qu'on adorait autrefois? Des idoles, des statues. On adorait même des personnes. Et j'espère que vous n'adorez personne aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que quand nous sommes dans la présence de Dieu, qu'il n'y ait rien. Tout ce qui est autorité humaine, ceux qui vous ont mis un joug sur les épaules, tout cela doit être mis de côté. Parce que le joug de Jésus, la Bible dit, Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et le joug de Jésus nous emmène, non pas de manière contrainte, obligée, vous savez, un peu de manière esclavagiste, à nous prosterner. Non, c'est un joug qui est doux. C'est-à-dire, on se prosterne volontairement, librement. Ce n'est pas comme imposé, mais c'est par amour, parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous aime. C'est volontairement, ce matin, nous nous prosternons devant lui, en disant, Père, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais tel que je suis, je me prosterne, lavé dans le sang de l'agneau, habillé de sa justice, purifié, les mains lavées, le cœur purifié, ma conscience purifiée, d'une eau pure qui est ta parole, je me prosterne et je t'adore. Pas besoin de musique, pas besoin d'ambiance, pas besoin d'atmosphère qui éveille nos sens. Dieu n'aime pas ça, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que ça soit le Saint-Esprit lui-même qui saisit nos cœurs, qui remplit nos cœurs et qui fasse sortir de nos bouches la louange, l'adoration qui lui est due. Amen. Dieu veut que ce soit le Saint-Esprit qui fasse ce travail. Parce que ce n'est pas par la volonté humaine qu'on peut faire cela. C'est seul si nous acceptons que le Saint-Esprit nous remplit ce matin. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront qui? Vous voyez, souvent, il y a de la confusion dans notre esprit. Jésus, quand il était sur la terre, il était, comme je vous le disais au début,
il était la photocopie. Quand l'empreinte, vous savez, quand on va faire un dossier où on a besoin de l'empreinte, eh bien, l'empreinte de Jésus, vous prenez, Dieu vient à côté, met son empreinte, vous dites, mais c'est la même chose. L'empreinte de Jésus, c'était la même empreinte que le Père. Il y a comme une réflexion qu'on se fait souvent. On dit, mais qu'est-ce qu'il te ressemble? Il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle te ressemble? Eh bien, Jésus, c'était l'empreinte, c'est l'empreinte même du Dieu invisible. On voyait Jésus, c'est Dieu qu'on voyait. Vous vous rendez compte? Les disciples avaient en leur présence le Dieu qui dit « Dieu est esprit ». Oui, il est esprit. Mais la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Alors, quelquefois, ça suscite un peu, ça nous dépasse, humainement parlant. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ces choses. On ne peut pas comprendre que Dieu s'est fait homme et Christ, homme sur la terre, c'était Dieu qui était là sur la terre. Ce Dieu qui est esprit s'est fait homme pour venir à la rencontre de sa créature que nous sommes. Et là, cette femme était devant, on dit Jésus, oui, devant Jésus, le Fils de Dieu, mais il était devant Dieu lui-même. Et ce Dieu, à travers Jésus-Christ, fait tomber le voile pour emmener cette femme à passer à son état d'esprit de blocage en disant « c'est là-bas qu'il faut aller adorer Dieu ». Jésus lui dit « non, ce n'est plus là-bas ». Pourquoi ? Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et je suis, et nous sommes, les vrais adorateurs. Prenons conscience de ça. Autrefois, comme je le disais, on adorait les idoles. On adorait, on allait dans des lieux pour adorer, pour prier, pour faire ce qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller ni à droite ni à gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'adoration collective, comme nous ce matin, et il y a l'adoration individuelle. Quand nous sommes à la maison, quand nous sommes dans le train, dans la voiture, au travail, là aussi, nous sommes des adorateurs. Et quand nous nous retrouvons comme ce matin ici, je dis nous sommes, c'est l'adoration collective. Ensemble, même cœur, même amour, même foi, même pensée, même désir, ensemble, nous bloquons tout cela et nous nous tournons vers le Dieu vivant qui est notre Père et nous l'adorons. Et nous adorons Jésus. Amen. L'adoration individuelle et l'adoration collective. Et là, Jésus lui dit, les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux. Vous allez dans des endroits, dans des églises, où il y a toute une ambiance qui éveille les sens, les émotions. Et vous voyez des gens qui sont là, qui pleurent. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Si c'est motivé par une ambiance, par une atmosphère, et pas par l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas toucher le cœur de Dieu, mes amis. Et combien de cultes que on dit rendre à Dieu, et qui en réalité, on le rend, je ne sais pas à qui, mais à la chair. Mais on ne rend pas ce culte véritable à Dieu, parce que le culte que Dieu agrée et reçoit, c'est celui dont le Saint-Esprit prend le relais, dont l'Esprit de Dieu nous remplit pour... Voilà. Et il n'y a rien de charnel ni humain là-dedans. Rien. Mais tout est poussé par le Saint-Esprit. C'est pour ça quand il y a les dons, ce même esprit pousse l'un à parler, pousse un autre à interpréter, à un autre de donner. C'est l'Esprit, toujours par l'Esprit. C'est pas une motivation humaine en disant « oui, je vais donner ». C'est pas ça. il faut être saisi par l'Esprit. Et quand on est saisi par le Saint-Esprit, je peux vous dire, le Saint-Esprit va saisir un autre pour donner l'interprétation. On n'aura pas besoin d'attendre pendant 10 000 ans, là. À dire on attend. Non ! Quand ça vient, c'est simultané. Tu parles en langue, simultanément, l'interprétation est donnée. Quand ça vient de l'Esprit. Mais quand ça vient des hommes, on calcule, on réfléchit, on est là, on se regarde, on attend, on dit qui va donner. Ça, c'est humain. Mais élevons le niveau, s'il vous plaît. Soyons, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand ça vient, je le répète, du Saint-Esprit, c'est simultanément. Les choses sont données, tout de suite après, il y a l'interprétation. C'est pas des calculs humains. C'est contrôlé, c'est conduit par l'Esprit. Recherchons cela, mes bien-aimés. Et vous verrez. Alors je poursuis. J'en étais où? Qu'est-ce que Dieu veut? Des vrais adorateurs. Des vrais. Qui adorent qui? Le Père. Et nous sommes venus adorer Dieu. Trop souvent, nous mettons Jésus avant Dieu. C'est bien Jean 3,16, car Dieu, c'est qui Dieu? C'est notre Père. C'est lui, sans le conseil de qui que ce soit. C'est lui le Père qui a eu dans son cœur le désir de nous envoyer Jésus pour nous sauver. Ce n'est pas un ange qui est venu lui dire, « Oh Dieu, tout ce qui se décide dans le ciel vient de Dieu. » C'est lui le Père. C'est lui qui a décidé de nous envoyer Jésus. Alors, n'adorons pas Jésus avant Dieu. Jésus dit à cette femme, les vrais adorateurs, c'est nous. Qui adore qui? Le Père. Avant tout, c'est Dieu que nous sommes venus adorer. Père, je suis venu t'adorer ce matin. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont plus de reconnaissance pour leur père. Mais un enfant qui est reconnaissant, peu importe l'attitude du père, il restera toujours son père. Et il faut qu'il soit toujours reconnaissant à l'égard de son père. Il ne fera pas passer un autre père à la place de son vrai père. Eh bien, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a adoptés. Il est devenu notre père. Nous le lui disons, nous disons « Père, je t'adore ». Eh bien, il veut ce matin que ça soit lui en premier qui soit servi. Nous devons remettre les choses à leur place. Il est dit que les hommes, les 24 vieillards, on va le prendre pour bien que les choses rentrent dans notre esprit, et qu'on le comprenne bien. Les 24 vieillards, nous allons dans l'Apocalypse. Apocalypse. Allons-y faire un petit tour dans l'Apocalypse. Alors, Apocalypse chapitre 7, regardez, hein, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Alors, cette foule venait de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. C'est un rassemblement des hommes que Dieu a créés, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient où? Devant le trône. Et devant l'agneau, revêtu de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Alors, si on ferme les yeux, on imagine la scène, habillés, lavés, nettoyés, tous ces hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple, devant le trône, avec des palmes à la main, et on est là devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Au verset 10, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est acquis. Voyez, à notre Dieu, qui est assis sur le trône. Voilà où Dieu est assis. Il est assis sur son trône, un trône qui est élevé. Et je peux vous dire, quand Dieu a élevé Jésus, il l'a élevé au-dessus de tout nom, mais pas au-dessus de lui. N'oubliez jamais que Jésus, les anges, les noms des anges, parce que les anges ont des noms, il y a l'archange Michel, etc., et Gabriel, ils ont des noms. Mais quand vous réalisez ces myriades d'anges, avec leur classification, c'est-à-dire les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, ce sont des anges. Et ces êtres célestes portent des noms. Dieu a pris Jésus, il lui a donné un nom qui est au-dessus de ces noms. Amen. Dieu l'a pris et il lui a donné un nom qui est au-dessus de ses noms. C'est-à-dire, dans le ciel, quand le nom de Jésus est proclamé, quand son nom est prononcé, tous les êtres, anges, séraphins, chérubins et archanges, tous se prosternent devant Jésus. Mes bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez en esprit, je dirais comme ça, cette scène. Mais dites-vous bien une chose, disons-nous bien quelque chose, c'est que Dieu n'a pas donné à Jésus un nom qui est au-dessus de lui, lui le Père. Dieu reste celui qui est élevé, au-dessus de tout. Et vous avez remarqué que Satan, il lorgnait sur le trône où était assis Dieu. C'est un trône qui est élevé au plus haut. Et que le Saint-Esprit nous donne ce matin de voir Dieu élevé au-dessus de tout. Il nous dépasse. Et c'est pour cela qu'il s'est fait homme, pour s'approcher de nous. Pour il est venu près de nous, c'est-à-dire, on emploie un mot qui est la proximité. Dieu s'est approché, il est venu vers nous pour que nous puissions réaliser un peu plus qui il est. Sinon, on ne peut pas comprendre qui il est. Et à travers Jésus, il s'est révélé à nous. Je reviens. Le nom que Dieu a donné à Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais Dieu le Père reste celui qui est au-dessus de tout. Et regardez, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et ensuite il dit, tout de suite, et à l'agneau, à Jésus. Dieu et ensuite à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils se prosternèrent sur leur face, c'est-à-dire devant Dieu, qui est assis sur le trône, devant l'agneau, on se prosterne. Quand vous vous prosternez, quand vous baisez la main de quelqu'un, c'est que vous reconnaissez la supériorité de la personne. C'est une façon où vous reconnaissez, vous vous inclinez, vous dites voilà, je reconnais que tu es celui, que tu es au-dessus de tout, tu es digne de recevoir. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons incliner notre cœur. Nous devons nous prosterner face contre terre et donner toute la gloire à Dieu et à Jésus-Christ ce matin. Il dit, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, ils disaient quelque chose ces personnes, les anges et les nations qui étaient là. Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord, ainsi soit-il. La louange Est-ce que vous êtes d'accord, mes bien-aimés, ce matin? La louange, la gloire, est-ce que vous êtes d'accord? Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons toute la gloire. La sagesse, l'action de grâce, l'honneur, tous ces mots ont une signification. Et si dans chaque mot que nous prononçons, qui normalement nous devions donner cela à Dieu et nous tirons quelque chose vers nous, c'est mort, comme dirait l'autre. Mais tout cela, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Vous avez vu? Il n'est pas parlé de l'agneau là. Il dit à notre Dieu. Et Jésus n'a pas de problème avec Dieu. Jésus, dans son cœur, il sait, quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit dans Philippiens, je crois bien, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être égal. Il n'a pas cherché à se mettre au niveau de Dieu, il n'a pas cherché cela. Il a cherché plutôt à s'abaisser, à s'humilier, à se dépouiller. C'est pour cela, la Bible dit, que Dieu l'a souverainement élevé. Qu'il croisse ce matin au milieu de nous, que Jésus croisse, qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré, qu'il soit béni, qu'il soit élevé au milieu de nous, et que nous, la chair, l'humain, nous puissions disparaître, nous descendons devant lui. On ne peut pas supporter la présence de la gloire de Dieu. Je le disais au début. Quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu ne veut pas sentir notre odeur. Il veut que nous passions avant pour être habillés de cette robe blanche. Ils étaient vêtus devant l'agneau, revêtus de robes blanche. Il faut que nous allions, et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible nous dit, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est en Christ que nous avons toutes ces choses et qui nous permet ce matin de pouvoir nous approcher de Dieu et de pouvoir l'adorer. Sinon, ce n'est pas possible. Impossible de rendre un culte, impossible de lui donner gloire, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous saisit, qui nous remplit pour cela. Et l'un des vieillards, au verset 13, prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, Jean, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies. Où ça ? Avec quoi ? Dans le sang de l'agneau. Vous voyez encore une fois que par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. En dehors de Jésus, c'est impossible de plaire à Dieu. Et je reviens à cette femme, cette Samaritaine qui dit, pour finir la pensée, elle dit ceci, les vrais adorateurs, c'est Jésus qui parle, adorent qui ? Le Père, avant tout. Comment ? En esprit. Alors, ces adorateurs-là, qui adorent Dieu en esprit, ce n'est pas par notre intelligence naturelle que nous pouvons adorer Dieu, ni par nos propres efforts, je vous ai parlé de Caïn tout à l'heure. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible que notre esprit fasse monter vers Dieu l'adoration que Dieu veut. Sans le Saint-Esprit, On a besoin, on a notre esprit. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. Eh bien, Dieu veut des adorateurs en esprit. Et Dieu, on ne peut pas, nous, là, ce matin, en disant, mon Dieu, je t'adore. Si nous le faisons, il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous, sur notre esprit, et saisisse nos cœurs et notre esprit pour que nous puissions offrir à Dieu cela. Sinon, c'est impossible. Parce qu'il le dit, Jésus le dit, que les vrais adorateurs, Dieu les veut, mais il veut que ça soit en esprit et en vérité. J'ai noté cela. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible que notre esprit fasse monter vers Dieu l'adoration que Dieu attend de nous. Nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 20 nous dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Si dans votre cœur le Saint-Esprit est attristé, ce n'est pas possible d'offrir l'adoration, la louange, l'action de grâce à Dieu notre Père. Vous êtes d'accord? Et il dit ceci, en vérité, en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas seulement des paroles et des chants qui éveillent l'émotion et les sens, mais il désire que cela vienne réellement de notre cœur. Ésaïe 29. Allez-y, mes bien-aimés, prenez la parole de Dieu. Allez, un dernier coup de collet, comme on dit, un dernier coup et on y va. Ésaïe, cela est repris par Jésus dans Matthieu 15, hein, mais je le prends dans Ésaïe. Ésaïe 29, à partir du verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, comme nous ce matin, nous nous sommes approchés de Dieu. Nous sommes venus pourquoi ? Pour l'adorer. Et Dieu dit, à travers le prophète Ésaïe, quand ce peuple, en parlant d'Israël, s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Ça, ce ne sont pas les vrais adorateurs. Adorer Dieu, c'est-à-dire le cœur, il n'y a pas une histoire de cœur. Et on sait que ce qui vient du cœur, c'est le psalmiste qui disait, le psalmiste disait ceci, « Tu veux que la vérité soit où ? Au fond de mon cœur. » Le psalmiste disait, « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Dieu agrée et Dieu veut que l'adoration que nous lui donnons vienne de notre cœur. Et il faut qu'en amont, le cœur soit lavé, purifié. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, ce peuple, et je le crois ce matin, nous ne sommes pas de ceux-là. Je le crois vraiment. On n'est pas de ceux qui venons pour adorer Dieu avec la bouche et des lèvres. Et Dieu dit ceci, mais, regardez bien, quoi ? Son cœur, voyez, son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, il y a une présence physique, il y a une présence physique, il y a la présence avec la bouche, les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu veut que notre cœur soit présent ce matin ici, que notre esprit soit présent, que nous ramenons tout pensée captif à l'obéissance de Christ et que nous nous levons contre toute opposition. Tout ce qui pourrait empêcher que notre esprit, notre cœur, parce que c'est un moment exceptionnel, là, ce matin, c'est un temps exceptionnel que Dieu nous donne. On n'aura pas ce temps-là, on ne sait pas. Mais là, aujourd'hui, il y a un aujourd'hui, Dieu nous l'a fait voir aujourd'hui. Eh bien, c'est un moment exceptionnel pour Dieu et pour Jésus-Christ. Il dit, mon cœur, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez ? Quand on tombe dans la tradition, comme cette femme samaritaine, elle dit non, nos pères ont adoré, elle était encore dans les traditions. Jésus ramène les choses de manière plus concrète. Et on le verra un peu plus tard pour finir. Et il dit ceci, ce peuple m'honore. Ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel. Et Dieu désire que ce que nous lui exprimons de la bouche soit réel dans le cœur. Dieu ne veut pas que quand on parle, mais que le cœur n'y est pas et est à des kilomètres de distance. Dieu veut que ça soit en harmonie. Pourquoi ? Parce que Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Vous dites amen ? Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous jouissons de la rédemption. Nous jouissons de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens. Revenons dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la pensée. 1 Corinthiens chapitre 1er et verset 30. Mais on va le lire parce que je l'ai dit de tête tout à l'heure. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par qui lui ? Dieu. C'est par Dieu, c'est grâce à Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Je dis amen. Et pour finir ma pensée, j'ai noté ceci. L'adoration que Dieu veut, c'est celle qui vient d'un cœur, des cœurs qui ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus, son Fils. Ça, que ça soit bien clair. Pourquoi je le dis ? Parce que Hébreux 10, 22 nous dit ceci. Hébreux 10, à partir du verset 22, je vous le lis. Nous nous sommes approchés de Dieu ce matin. Alléluia. Il dit, approchons-nous. Comment ? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Sans la foi, ce matin, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous remplisse de cette foi. Il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et combien, quelquefois, notre conscience nous culpabilise. On culpabilise parce qu'on a la conscience des choses qu'on a peut-être dit ou fait. On a la conscience qui nous reprend. Moi, j'appelle la conscience la boîte noire. Mais cette boîte noire, ce matin, le sang de Jésus a le pouvoir, si nous acceptons qu'il vienne là dans notre conscience, sur notre conscience, de purifier. Pour que nous puissions offrir à Dieu un sacrifice de louange, un culte qui lui soit agréable. Il dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous partageons ce matin, elle fait un effet dans notre cœur, c'est qu'elle nous lave, elle nous nettoie, elle nettoie notre cœur pour que nous puissions ce matin rendre un culte qui soit agréable à Dieu. Et je finis ma pensée dans 1 Pierre, c'est ma dernière lecture, dites ouf. 1 Pierre 1, chapitre 1er, à partir du verset 15. Vous l'avez ? Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu que vous avez ? J'ai pas entendu. Puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Nous disons Amen. Amen.